La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Enfant sous la troisième, il habitait au quatrième, une maison du 19e. C'est évidemment Jacques Prévert, dont Hervé Hamon nous a raconté l'enfance lundi dernier. Celle d'un homme qui a toujours su voir ce que le quotidien, même dans sa plus grande banalité, peut comporter de poétique, si l'on sait y déceler le grotesque, le merveilleux, ou tout simplement le beau. Et oui, le monde est beau, mais il est triste, semble nous dire Prévert, qui regrette qu'on ne s'arrête pas davantage pour le regarder, comme nous le voyons cette semaine au cours d'une série en 4 épisodes à retrouver notamment sur l'appli Radio France. Après la biographie, lundi donc, nous nous sommes arrêtés hier sur l'œuvre avec Daniel Castiglia-Laster qui a détaillé pour nous les sources surréalistes de la poésie de Prévert et a également souligné le caractère presque cinématographique de son travail d'écriture. Du cinéma justement, il sera question demain par la voix de Noël Herpe qui reviendra sur les films les moins célèbres du scénariste de Quai des Brumes et des Enfants du Paradis afin de mieux cerner la profonde substance de son talent. Et aujourd'hui, Angela, they put you in prison. Angela.
Comment voulez-vous que moi, je n'ai pas une préférence pour la gauche? Puisque le mot la gauche, ça veut dire qu'il ne sait pas comment faire. C'est gauche. La droite, c'est rusé. Moi, j'aime mieux l'absence de ruse. J'aime la gauche. C'est la main de l'ouvrier. C'est celle qui peut le plus, même s'il n'est pas gaucher.
Aujourd'hui, pour parler de la gauche, de la droite, des copains, de l'engagement et aussi de musique et de chansons, nous sommes en votre compagnie, Carole Auroué, bonjour à vous.
Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alors vous êtes maîtresse de conférences HDR à l'université francilienne Gustave Eiffel, autrice de plusieurs ouvrages consacrés à l'auteur qui nous intéresse cette semaine, dont Jacques Prévert, Une vie, réédité en 2017 aux nouvelles éditions Jean-Michel Place, éditeur où vous avez publié aussi l'essai Prévert et le cinéma, et puis vous avez organisé un colloque, c'était en 2017 à Cerisy-la-Salle, qui a donné lieu à une publication, Jacques Prévert, détonation poétique, avec Marianne Simon Oikawa, c'est aux éditions Classiques Garnier. Pourquoi ce mot d'ailleurs de détonation? Est-ce que c'est parce que sa poésie explose ou est-ce que sa poésie détonne par rapport à d'autres productions poétiques?
Bah écoutez, pour ces deux raisons, parce qu'en fait c'est effectivement une poésie qui a un caractère extrêmement sulfureux, un caractère extrêmement révolté, et le but que nous visions avec ce colloque à Cerisy-la-Salle, avec Marianne Simon-Oikawa, c'était justement de mettre en exergue et de montrer le caractère détonnant de la poésie et de manière générale de toutes les créations de Jacques Prévert.
Alors c'était une première quand même ce colloque, il n'y en avait jamais eu de colloque Prévert à Cerisy, c'est le temple un petit peu des colloques internationaux. Est-ce que ça signait selon vous sa reconnaissance ou est-ce qu'au moins sa reconnaissance prend de l'ampleur?
Bah écoutez, oui, je suis très heureuse que vous signaliez ce point parce qu'effectivement, le centre culturel de Cerisy existe depuis 1952. Il y a eu à peu près 800 colloques qui ont donné lieu à plus de 600 ouvrages et il n'y avait jamais eu de colloque consacré à Jacques Prévert. Donc il me semblait qu'il fallait, pour les 40 ans de sa disparition en 2017, marquer le coup et organiser enfin une vraie semaine d'études très complète sur l'ensemble de son œuvre. Son cinéma, ses collages, son théâtre et sa poésie. Et c'est ce que nous avons essayé de faire avec tous les acteurs de ce colloque.
Mais ça veut dire que le regard change. Comment on le regarde aujourd'hui, Prévert ?
Alors le regard change, mais c'est vrai que c'est assez lent, assez difficile. Il y a encore de la part de l'université, par exemple, un désintérêt vis-à-vis de son œuvre. Je parle particulièrement de son œuvre littéraire, hein, parce que le statut de son œuvre cinématographique n'est pas tout à fait identique. Il est davantage reconnu, davantage étudié. Mais c'est vrai qu'il y a encore parfois une sorte de mépris pour une poésie qui peut être considérée comme une poésie facile, une poésie du quotidien, et qui peut être un peu dénigrée, mais qui est malheureusement une poésie assez méconnue, parce qu'un certain nombre de personnes se cantonnent aux textes un peu plus doux et rêveurs qu'il a pu écrire pour les enfants, et ne regardent pas la totalité de ses recueils et la totalité de sa poésie, qui est une poésie véritablement rouge, très sanglante, très subversive, très violente. Et je vous donnerai peut-être qu'un exemple, parce que ça m'a beaucoup amusé que vous m'invitiez à venir parler de Jacques Prévert le 6 janvier, hein, le jour de la fête chrétienne de l'Épiphanie, puisque bon, Prévert est anticlérical, hein, ce n'est un secret pour personne.
Ah, il le disait suffisamment.
Bien sûr, et en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais il a écrit un poème qui a pour titre « Épiphanie », dans lequel, en fait, « tirer les rois » signifie « étriper les rois », de sorte que l'hommage à la royauté devient un hommage à la révolution. Donc ça vous donne aussi un petit peu un exemple du caractère subversif, de sa poésie, de ses textes.
Mais justement, comment est-ce qu'on peut comprendre cette violence dont il va aussi être question au cours de cette émission qui vise à explorer un petit peu Prévert et la politique. La violence de Prévert, comment la comprenez-vous ?
Bah, c'est un être qui est extrêmement sensible et extrêmement sanguin. C'est un être qui est totalement horripilé en fait par les injustices et ne peut s'empêcher de réagir. Donc il va réagir à sa manière, c'est-à-dire qu'il va réagir en écrivant, en criant, en manifestant, en créant. Mais c'est quelqu'un qui a un goût de la liberté, une indépendance d'esprit tellement marquée que il ne va pas pouvoir prendre sa carte dans un parti politique. Il ne va pas s'engager dans les chemins qui sont habituellement connus. C'est une question, la question de l'engagement politique, qui va se poser à lui très très tôt, hein, en fait, et essentiellement dès 1926 avec l'adhésion des surréalistes au Parti communiste, puisque Prévert à cette époque fait partie du mouvement surréaliste auquel il va participer de 1924 à 1930. Mais il ne peut prendre sa carte dans un parti politique et s'engager. Il a l'impression, là, pour le coup, de perdre sa liberté et de ne plus être un électron libre. Et lui, qui, finalement, se livre assez peu, il donne quelques témoignages, hein, sur ce non-engagement, ce non-appartenance à un parti politique. Il explique qu'il était révolutionnaire à 7 ans, mais qu'en fait, il est absolument incapable d'ouvrir un livre de Marx, que cela l'emmerde, pour le citer.
Et qui s'en remet aux autres pour cela.
Exactement, tout à fait. Et qu'il serait très facile, hein, pour lui d'adhérer, par exemple, au Parti communiste, mais qu'il croit que ça n'aurait absolument aucun sens. Donc, en fait, son engagement, sa révolte, elle va se situer à chaque petit moment de sa vie, dans chaque acte qu'il va accomplir au quotidien. Et il va réagir dès son plus jeune âge, parce que dès l'enfance, et c'est un petit enfant qui a une répartie assez incroyable, il va être mis à la porte des cours de catéchisme, parce qu'il va comparer défavorablement les récits bibliques aux récits mythologiques, par exemple. Hein. Il explique que les récits mythologiques sont bien plus haletants, bien plus passionnants, et surtout qu'ils sont bien plus intéressants, parce que dans la mythologie, il y a de bien belles déesses, ce qu'il ne va pas retrouver dans les récits bibliques. Donc voilà, cette répartie, cette réaction presque viscérale à tout ce qu'il trouve injuste, anormal, elle va prendre ces formes-là au quotidien, et là j'ai donné un exemple tiré de l'enfance, mais pour vous montrer que c'est vraiment ancré dans son être. Dans l'adolescence, je trouve qu'il y a un autre épisode assez marquant. On est en 1917, il a 17 ans puisqu'il est né en 1900, et en fait il assiste à une scène qui va profondément le marquer et le révolter. Des soldats en permission chantent l'Internationale et accrochent sur le plateau. Une chanson, hein, qui a été interdite parce qu'elle était violemment opposée à la guerre. Et en fait, Prévert, le jeune Prévert qui a 17 ans, proteste. Il est embarqué par les policiers. Les policiers vont lui glisser une lame de rasoir dans la poche. Ils vont lui tendre une déposition qui est toute prête. Alors, il va protester à nouveau, vous vous en doutez. Et là, il va être malmené, il va être amoché, et il va passer devant le conseil de révision. Mais voilà, ça ne
victime de violence policière.
Exactement. Et c'est ces éléments-là, cette violence et ce vécu vraiment profondément dans son être qu'on va retrouver dans ses créations. Et il y a un petit graffiti, si vous me permettez, que moi j'aime beaucoup et que j'ai toujours vu un peu comme la résultante de cet épisode dont je viens de vous parler. Prévert écrit quelques années plus tard, « Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Les vérités de la police sont les vérités d'aujourd'hui. »
Alors il y a la police, puis il y a aussi son profond antimilitarisme, vous l'avez aussi évoqué. Très tôt, il se rend compte des dangers que constitue la montée de l'hitlérisme en Allemagne. Et je vous propose d'écouter à ce sujet ce poème, L'avènement de Hitler, écrit et joué en janvier 1933, c'est-à-dire le jour où Hitler a été nommé chancelier.
Banque de New York baisse leurs rideaux de fer.
Quoi ?
Les braves gens sont debout, livides, au bas du lit.
Qu'est-ce que vous dites ?
La bourse de New York va fermer.
Quoi ?
Comme c'est frais, New York ! Comme c'est frais !
Câblé ! La bourse de New York va fermer, câblé !
Porte demeure maintenant au rez-de-chaussée.
S'il se jette par la fenêtre, on pourra peut-être le sauver.
Ça va mal.
Le bourgeois pleure des larmes et grince des dents. Il devient de plus en plus méchant.
Comme ce grand homme mythologique, il était sensible qu'au talon.
Le bourgeois est sensible qu'au fric, même quand on lui joue du violon.
Il tuerait bien tout le monde pour garder sa maison, mais il ne peut pas tuer lui-même. Il faut qu'on croie qu'il est bon.
Alors, il cherche un homme.
Comme Diogène.
Alors, il trouve un homme au fond d'un vieux tonneau de peinture.
Hitler.
L'homme de paille pour foutre le feu.
Le tueur.
Le provocateur.
On présente d'abord le monstre en liberté, on le présente aux ouvriers.
C'est un ami, presque un frère, un ancien peintre en bâtiment.
Le moindre mal, quoi.
C'est moins dangereux qu'un général, un ancien peintre en bâtiment.
Et maintenant, les quartiers ouvriers sont pleins de couleurs de sang. Couleurs de sang!
La compagnie des œuvres sur France Culture. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Carole Horway, de cet extrait qu'on a écouté avec vous ?
Alors ce texte, effectivement, l'avènement d'Hitler, il est incroyable, vous venez de l'entendre, et la date de son écriture, à mon sens, le rend encore plus incroyable, parce que c'est un texte qui a été écrit dès 1933. Mm-hmm. Ça veut dire que tout de suite, Jacques Prévert a perçu Hitler comme quelqu'un d'extrêmement dangereux, et il y a une sorte de grande lucidité, en fait, qu'il va d'ailleurs mettre à profit, puisqu'on parle des textes engagés, qu'il va mettre à profit dans son expérience avec le groupe Octobre.
De lucidité, je vous coupe une seconde, mais
oui,
est-ce qu'il n'y a pas aussi la tentation pour Prévert de céder aux sirènes d'une certaine simplification ? Parce que ce qu'on entend en fait dans cet extrait, c'est que c'est la bourgeoisie qui sciemment finalement amène Hitler au pouvoir. Or, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Est-ce qu'il n'y avait pas une volonté un petit peu de rendre les choses plus simples qu'elles n'étaient ?
Alors, justement, il faut voir le contexte, c'est-à-dire que c'est un texte qui est joué, c'est un texte qui va donner une scénette, qui va être interprété dans la rue, dans les cafés, avec le groupe Octobre, le théâtre de l'agitpropre, de l'agitation propagande. Et donc, l'objectif, c'est quand même de marquer les esprits, c'est de marquer les esprits d'un public populaire et de faire réagir et de faire participer les spectateurs. Donc, évidemment, on n'est pas dans un essai détaillé où on va tomber dans la nuance, on est dans un texte relativement court qui a pour objectif de donner un coup de poing, de provoquer et de faire réagir. Et forcément, on va dans une sorte, entre guillemets, de simplification. Vous voyez, c'est vraiment le contexte qui va aussi engendrer ce type d'écriture.
Alors justement, quelle pouvait être la réception d'un texte comme celui-là à l'époque? Quelle pouvait être son influence? Et est-ce que vous diriez au fond que Prévert, c'était quelqu'un qui était d'une voix et dont la voix portait?
Alors, c'est toujours difficile hein, de se reprojeter comme ça dans les années 30 avec un théâtre de la gîte propre qui est donné dans la rue et qui est joué encore une fois auprès d'un public populaire et auprès des ouvriers. Une voix, évidemment, c'était une voix dans le sens où, qui consisterait à vous dire qu'entre 1932 et 1936, quand Prévert écrit pour le groupe Octobre, tout le monde connaît Jacques Prévert et attend ses représentations et ses textes. Je pense que là, ça serait complètement erroné. Par contre, le groupe Octobre était connu. Le groupe Octobre était une énorme bouffée d'oxygène pour tout un tas, notamment d'ouvriers, hein, et je pense aussi aux textes que Prévert a pu écrire sur Citroën, qui soutenait les ouvriers qui étaient en grève et qui manifestaient pour dénoncer les conditions de travail misérables.
Ah bon, on peut l'écouter si vous voulez.
Vous savez,
on l'a justement sous la main.
Très bien.
Citroën. À la porte des maisons closes, c'est une petite lueur qui luit, quelque chose de faiblard, de discret, une petite lanterne, un quinquet. Mais sur Paris endormi, une grande lueur s'étale, une grande lueur grimpe sur la tour. Une lumière toute crue, c'est la lanterne du bordel capitaliste, avec le nom du taulier qui brille dans la nuit. Citroën, Citroën. C'est le nom d'un petit homme, un petit homme avec des chiffres dans la tête, un petit homme avec un drôle de regard derrière son lorgnon, un petit homme qui ne connaît qu'une seule chanson, toujours la même, Bénéfice Net, une chanson avec des chiffres qui tournent en rond, 300 voitures, 600 voitures par jour, trottinette, caravane, expédition, autochnie, camion, bénéfice net, millions, 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 Citroën, Citroën. Même en rêve, on entend son nom. 500, 600, 700 voitures, 800 tout camions, 800 tanks par jour, 200 corbillards par jour, 200 corbillards. Et que ça roule. Il sourit, il continue sa chanson. Il n'entend pas la voix des hommes qui fabriquent. Il n'entend pas la voix des ouvriers. Il s'en fout, les ouvriers. Un ouvrier, c'est comme un vieux pneu. Quand il y en a un qui crève, on n'entend même pas crever. Citroën n'écoute pas. Citroën n'entend pas. Il est dur de la feuille pour ce qui est des ouvriers. Pourtant, au casino, il entend bien la voix du croupier. 1 million, monsieur Citroën, 1 million. S'il gagne, c'est tant mieux. C'est gagné. Mais s'il perd, c'est pas lui qui perd. C'est ses ouvriers.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Est-ce que ce type de brûlot, ce pamphlet, c'est plutôt avant-guerre, ou est-ce que toute sa vie on va retrouver ce genre de texte-là, Carole Horouet?
Moi, cette virulence, ce brûlot, ce type d'écriture, c'est vraiment quelque chose qui est associé à ses 4 années d'écriture pour le groupe Octobre. En fait, il apprend à écrire beaucoup, très vite, pour cette troupe de théâtre révolutionnaire. Et il est vrai qu'il y a un ton singulier. Il y a un ton très singulier qui relève du cri, en fait, hein, face à la surdité, face au mépris, puisqu'on vient de l'entendre hein, pour Citroën. Il faut crier. Et en fait, ce sont des textes qui sont... vraiment du côté de l'oralité, hein, qui sont écrits pour être clamés, pour être criés, pour être hurlés, au niveau du rythme, au niveau des sonorités, au niveau des allitérations qui explosent, il y a quelque chose d'assez singulier. Prévert va rester très véhément et combattre toutes les formes d'injustice jusqu'à la fin de ses jours, mais dans des pamphlets publiés ou des tracts distribués à d'autres occasions, on va être dans une autre forme d'écriture. Avec peut-être une ironie plus mordante, mais pas dans l'agite propre. En fait, c'est encore une fois le contexte et le fait que le texte soit par exemple lu et non joué, comme pour le groupe Octobre, qui va aussi influencer la forme de ce qu'il va dire.
Oui, parce que cet engagement de Prévert, on le retrouve partout, dans toutes ses productions, que ce soit dans ses poèmes, mais aussi au cinéma, dans ses collages, et même on pourrait presque dire dans ces récits pour les enfants où on retrouve quand même de la politique.
Bien sûr, c'est une constante, hein, fidèle, toujours, enfin Prévert est toujours été fidèle à l'enfant qu'il était, et il a été jusqu'à la fin de sa vie révolté dans toutes les créations qu'il a pu auxquelles il a pu donner vie. Et c'est vrai que par exemple, quand il va écrire des contes pour les enfants, il va écrire des contes pour les enfants passage.
Oui. Donc, par exemple, la lettre des îles Baladar ou le Guignol, en quoi est-ce que ça peut être aussi politique ?
C'est politique, ça ne prend pas les enfants évidemment pour des imbéciles, et ça permet d'attirer leur attention sur un certain nombre de faits sociaux qui peuvent les concerner. Donc on va avoir par exemple une famille qui va inviter un clochard chez eux et échanger avec ce clochard. On va essayer de leur permettre de voir différemment les choses, en fait.
Je n'aimais pas du tout aller là où les gens s'esclaffaient parce qu'on avait un chat qui s'appelait Loubet. Mon père avait beau m'expliquer que c'était parce que le président de la République s'appelait pareil que mon chat, je détestais ces gens-là. Quand ils passaient tous en bande dans les rues en criant « Abba Loubet », j'aurais voulu, comme Coquarda à ses passepoils, les flanquer tous dans les fossés de Quélus. Et quand ils criaient « Vive des roulades », je n'aimais pas non plus celui-là. Abba Loubet. Tout le monde se battait et les gardes à cheval et à pied tapaient sur tout le monde pour les séparer. « Pourquoi se battent-ils » demandai-je. « Pas les mêmes idées ?» répondait papa. « Moi, je n'aimais pas les idées de ceux qui insultaient mon chat. Et c'était difficile à les reconnaître, à savoir lesquels. Ils roulaient par terre tous ensemble et s'enfuyaient en même temps et du même côté. Et comme ils criaient tous « Vive la France !» c'était trop compliqué. Ils criaient aussi « Mort aux Juifs !» ou « Youpin !» comme ils les appelaient. J'entendais leurs chansons. « Chassons les Youpins et les Francopins !» Chassons loin chez nous, cette sale race de filous. Comme j'ai questionné mon père, il hochait la tête et n'avait pas l'air d'approuver. Les Juifs, tu comprends ? Mais on dit toujours tu comprends aux enfants qui ne comprennent pas.
Alors là, on est peut-être dans un texte qui n'est pas moins fort que les autres, mais qui a une tonalité un petit peu différente. Carole Horouet, comment est-ce que vous la qualifieriez d'ailleurs de votre côté, cette tonalité-là ?
Je ne sais pas très bien comment la qualifier. En tout cas, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans ce texte sur son enfance, Prévert donne quand même des clés de lecture, des clés de compréhension de ce qui va suivre, de ses créations et de son attitude. C'est quelqu'un qui se livre finalement assez peu, vous nous l'avez donné à entendre et c'est formidable, il se livre très peu et il se livre en fait dans une sorte d'autobiographie qui ne concerne que les 7 premières années de sa vie, parce que en fait il dit qu'après on est un vieux con, mais en parlant des 7 premières années de sa vie, il donne énormément de clés et là il a parlé notamment de son père et c'est aussi une des clés de ce qui va suivre. Son père c'est quelqu'un qui s'est présenté à des élections municipales à Neuilly-sur-Seine, puisque la famille Prévert habite à Neuilly-sur-Seine jusqu'en 1907, et c'est quelqu'un qui est extrêmement difficile à situer sur l'échiquier politique, parce qu'il est farfelu, il est pétri de contradictions, il est à la fois bonapartiste, nationaliste, anticlérical, anticlérical.
Ça fait peut-être des enfants anarchistes, ça.
Voilà, exactement. Et je pense que il y a, vous avez vu à la fois dans ce témoignage cette espèce de caractère déstabilisant pour un enfant, et puis aussi, moi, ce qui me marque dans ce texte, c'est que Prévert tout de suite dit qu'il ne veut pas combattre, et ce qui est très important et qu'on n'a peut-être pas encore signalé, c'est que Prévert, avant tout, c'est un pacifiste.
Et qui se fait réformer, du coup, en 1939.
Exactement, qui a toujours refusé de combattre, qui ne veut pas... C'est quelqu'un qui ne veut pas tirer sur ses frères, comme il le dit dans des poèmes, et qui s'est fait réformer. Et d'ailleurs, il s'est fait réformer, bon, c'est assez drôle aussi, l'humour n'est jamais loin, mais il a tenu volontairement des propos saugrenus et adopté un comportement intrigant. Et en fait, comme le dit son ami Marcel Duhamel, il a été réformé comme goitreux, atteint par surcroît de sénilité précoce, à 40 ans. Donc voilà, ça donne aussi le ton. Mais cette question du pacifisme, elle est vraiment importante. Il ne veut pas combattre, il ne veut pas tirer sur ses frères, mais il va quand même être un citoyen évidemment informé, lucide et actif, mais encore une fois dans le quotidien. Et il a été aussi question dans ce texte des juifs. Le meilleur exemple qu'on peut peut-être donner sur cet engagement, c'est le fait que pendant la collaboration, il va aider son ami le décorateur Alexandre Trauner et son ami le compositeur Joseph Kosma à travailler, alors qu'ils n'ont pas le droit de travailler, à travailler notamment sur le film des Enfants du Paradis, et il va les cacher dans le sud de la France, qui est évidemment pas un acte anodin et sans risque. Alors, donc voilà,
Oui, vous avez du coup dans votre article pour le colloque de Cerisy, enfin votre intervention devenue ensuite un article, vous avez fait un peu le calcul pour savoir combien il y avait de références politiques dans les écrits de Prévert. Il s'avère qu'il y en a quand même beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu combien, et puis vous les avez aussi un petit peu ventilés, un petit peu classés?
Alors les références politiques, en fait, elles sont omniprésentes. Hein. Ce que j'ai voulu faire dans le cadre du colloque de Cerisy, c'est essayer de réunir les textes véritablement d'action, les textes véritablement engagés de Prévert, pour les analyser en fait comme un corpus indépendant, comme un objet susceptible de faire sens, qui n'avait jamais été fait. Donc j'ai essayé de constituer un corpus, et j'ai été extrêmement surprise parce qu'en fait j'arrive quand même à 23 références.
Toutes politiques.
Toute politique, bon, parce que tout engagement évidemment est politique, mais on va dire pour à peu près une dizaine de textes, de tracts, d'articles, une dizaine concerne des engagements purement artistiques, on va dire, que ce soit pour Chaplin, pour Aragon, enfin il y a un
pour Rimbaud d'ailleurs,
pour le poète des, alors pas uniquement en France hein, d'ailleurs aussi pour le poète Hikmet à Istanbul, etc. Et puis une quinzaine donc qui porte sur l'actualité, les conflits, les guerres, donc encore une fois de manière internationale. Donc il s'est engagé à 23 reprises, soit en écrivant lui-même le texte, c'est le cas de tête je crois pour 7 textes, soit en signant des tracts et des textes qui avaient été écrits par d'autres. Alors on peut imaginer parfois qu'il a mis un petit peu sa patte dans le texte, mais ce n'est pas toujours le cas, parfois il s'est contenté entre guillemets de le signer.
Alors on peut citer un certain nombre peut-être, alors ce qu'il n'a pas contribué à écrire, c'est quoique peut-être, c'est le texte sur les 10 d'Hollywood, c'est scénariste et réalisateur victime de McCarthyisme en 1952. Y en a d'autres. Lesquels sont les plus importants et les plus symboliques finalement de son engagement?
C'est toujours difficile de faire un choix, vous vous en doutez, mais en fait, je vais peut-être vous répondre avec trois exemples parce que, à mon sens, il y a trois phases, trois pôles qui se détachent dans ces textes. Il y a un premier pôle qui correspond à des textes qu'il a écrits essentiellement avec ses amis surréalistes, c'est-à-dire pendant la période surréaliste de 1924 à 1930. Et justement, c'est assez drôle parce que va faire Prévert quand il va vouloir s'exclure du mouvement surréaliste? Eh ben, il va écrire un pamphlet. Et il va écrire le pamphlet « Mort d'un monsieur » contre Breton, qui va être publié dans un cadavre. Donc il y a ces textes pendant la période surréaliste.
Alors, on peut en parler de ce texte-là, parce que ça dit beaucoup de choses aussi du rapport entre Breton et Prévert. Ce « Mort d'un monsieur », donc dans le recueil « Un cadavre », ça date du 15 janvier 1930. Et alors là, donc Breton se fait traiter de contrôleur du palais des Mirages, de perceur de tickets, de gros inquisiteurs. Qu'est-ce qui se joue finalement avec ce texte entre les deux?
Alors bon, c'est vrai que Breton en prend pour 100 grades, hein, faut dire ce qu'il est. C'est un pamphlet en fait collectif. Hein. Prévert n'est pas le seul à le signer. Il semble qu'il ait été plutôt initié par Bataille, et il est signé aussi par Desnos, par Queneau, par Boiffard, hein, faut le signaler. Mais c'est vrai que le texte de Prévert a particulièrement marqué.
On a l'impression qu'on retrouve un petit peu ses formules. Je sais pas si
c'est... Exactement, oui. C'est vraiment un pamphlet extrêmement féroce avec cet héritage vraiment un peu dadaïste et cette provocation. En fait, il se joue essentiellement deux choses. D'une part, Prévert a été extrêmement choqué et réagi par ce pamphlet au second manifeste du surréalisme, dans lequel Breton en fait entendait éliminer un certain nombre de membres comme Desnos ou comme Artaud, Et donc, évidemment, cette espèce de chasse aux sorcières et d'élimination, évidemment, provoque la révolte de Prévert.
Qui n'aimait pas non plus l'homophobie.
L'autoritarisme.
Et l'autoritarisme, l'homophobie de Breton.
Exactement. Et de Breton. Donc, il y a cette sorte de réaction à Breton qu'on surnommait le pape du surréalisme et cette volonté, évidemment, de toucher, de piquer et de blesser l'homme. Et puis, je pense, pour revenir à ce que nous disions au début d'émission, il y a aussi une volonté dans ce pamphlet de prendre ses distances par rapport à un certain nombre de membres du mouvement et à l'encartement des membres du mouvement. Donc Prévert choisit cette forme-là. Et ce pamphlet, il faut quand même aussi le rappeler, il me semble que parfois on l'oublie, hein, c'est un clin d'œil en fait à l'outrage funèbre qui a été imprimé pour la mort d'Anatole France dans le cadre d'un premier pamphlet surréaliste collectif. Donc c'est une sorte d'attaque encore plus en règle contre Breton, de reprendre la forme que Breton avait utilisé au moment de la mort d'Anatole.
Et il en a été évidemment extrêmement blessé. Il y a d'autres manifestes qu'on peut citer comme ça en passant, des prises de position en faveur de Angela Davis par exemple.
Oui, bien sûr. Alors là, c'est la dernière, en tout cas, que j'ai pu retrouver. Hein. C'est un travail en cours, on en retrouvera peut-être. J'ai trouvé des prises de position, parfois dans des petits encarts de journaux, hein, de manière tout à fait surprenante. Je ne m'y attendais absolument pas. Alors, donc, tout ça pour dire qu'il y en aura peut-être d'autres. Mais effectivement, là, nous sommes en 1971. Hein, donc, on fait un saut dans le temps. Et Angela Davis, vous le savez, qui est une militante du mouvement des droits civiques aux États-Unis et qui est membre des Black Panthers, est emprisonné suite à la tentative d'évasion de 3 prisonniers qui va se terminer par le décès d'un juge. Et 400 intellectuels français, dont Aragon, Guillotat, Villard et Prévert, vont décider de se positionner, de se mobiliser pour prendre sa défense. Et là, Prévert ne sera pas l'auteur de l'appel qui réclame la libération d'Angela Davis, mais il va signer cet appel. Mais par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit aussi un poème qu'il titre Angela Davis, poème dans lequel il va évoquer, quelques mots qui me reviennent, mais sa tête, sa jolie tête, qui est mise à prix aux enchères du malheur. Et donc il va prendre sa défense. Alors ça s'inscrit dans un courant beaucoup plus général, hein, parce qu'il y a une mobilisation de l'opinion publique au niveau international. Hein. John Lennon et Yoko Ono chantent la chanson Angela.
Et les Rolling Stones aussi.
Exactement. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, parce que je me permets un petit pas de côté, mais en travaillant il y a une quinzaine d'années dans les archives Jacques Prévert, j'ai trouvé une photo dédicacée des Rolling Stones à Jacques Prévert, qu'il avait lui-même demandé.
C'est marrant, on l'imagine pas tellement un concert des Stones, mais bon. Ouais.
Exactement. Alors, je me suis dit à un moment que c'était peut-être une dédicace qui avait été demandée pour sa fille, mais en même temps, c'est plutôt un cliché de ma part. Pourquoi pas un amour démesuré des Rolling Stones de la part de Prévert. Donc voilà, parenthèse fermée, mais il y a une opinion publique internationale qui se mobilise et Prévert se mobilise et signe ce poème. Et puis Angela Davis sera acquittée en 1972.
Mais alors, si il est peut-être pas au concert des Stones, mais il était proche quand même des 68. On l'imagine assez complice au fond de la jeunesse de 68, même si lui avait précisément 68 ans déjà.
Exactement. Tout à fait, vous avez raison. On a parlé des textes avec ce pôle surréaliste. Il y a un autre pôle là, dont on n'a pas parlé, mais qui est essentiellement au début des années 50, pendant la période de Saint-Germain. Et puis je dirais qu'il y a un troisième pôle pour ces textes engagés, c'est les textes de mai 68. Et en fait, il en écrit trois. On attend vraiment très 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 rapproché, hein, parce qu'il y en a deux qui paraissent au mois de mai et un au tout début du mois de juin. Et ces textes donnent vraiment le ton. Je trouve que c'est des textes absolument formidables. Il y a un premier texte qui s'appelle « On ferme », évidemment avec un point d'interrogation, vous en doutez. Mm-hmm. C'est un texte assez court, c'est un texte très incisif sur les événements qui va paraître dans « Action ». Hein. Et moi, ce qui me frappe dans ce texte que j'aime beaucoup et qui est à l'image de Prévert, c'est que c'est un texte qui est construit en fait de la fermeture vers l'ouverture, de la noirceur vers la lumière. Et c'est vraiment un texte qui est optimiste en quelque sorte, c'est-à-dire qui prône la vie, qui prône la solidarité, la liberté.
Donc c'est plus on ferme avec un point d'exclamation alors.
Oui, tout à fait.
Et non pas d'interrogation.
J'ai dit un point d'interrogation?
Oui.
Ah, excusez-moi, je voulais dire un point d'exclamation, bien sûr, un point d'exclamation. Et en fait, dans ce texte, il va condamner le traitement qui est fait de l'information dans la presse écrite et à la télévision, qui est un traitement pour lui aux ordres du pouvoir gaulliste.
Et ça, il le savait parce que il lisait la presse un petit peu tous les matins comme on fait sa prière.
Ah, tout à fait, c'était
qu'il ne faisait pas.
Pas comme on sait sa prière, oui, qu'il ne faisait pas. Mais effectivement, c'est un grand lecteur et en fait, il découpe beaucoup beaucoup d'articles et il va faire des collages, en fait, de citations et d'articles qu'il va mettre justement dans ses tracts. Et c'est formidable que vous me disiez ça parce que le deuxième texte qu'il écrit pour mai 68, justement, il va glisser des citations du préfet de police dans son texte comme une sorte de collage pour mettre en avant les mensonges, et il les met comme ça entre guillemets. Ce texte s'appelle « L'extraordinaire sang-froid » et vous aurez bien sûr noté l'ironie de ce texte. Texte qui va être accompagné d'un dessin de Volansky, hein, d'ailleurs, parce qu'il paraît dans l'enragé de ciné.
Alors je vous propose...
trois textes, je cite simplement quand même le dernier, qui s'appelle « Renaud au boulot ». Et là aussi, vous avez noté l'ironie, j'imagine. Hein. C'est un texte qui concerne les ouvriers de Renaud qui ont voté la grève générale et l'occupation des usines en solidarité avec les étudiants.
Et puis solidarité aussi avec les immigrés, les étrangers, comme on l'entend dans ce célèbre poème, lu ici par Jean-Louis Trintignant.
Kabyle de la Chapelle et des quais de Javel, homme des pays loin, cobaye des colonies, doux petit musicien, soleil adolescent de la porte d'Italie, bouillant de la porte de Saint-Ouen, apatride d'Aubervilliers, brûleur des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues, Tunisien de Grenelle, engagé, dégagé, manœuvre désœuvrée, polaque du marais du temple des rosiers, enfant du Sénégal, dépatrié, expatrié et naturalisé, enfant indochinois, jongleur aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié, enfant trop tôt grandi et si vite en allé, qui dormez aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos, étranges étrangers. Vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez.
Vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez.
Là encore, Carole Orway, on a un texte de révolte, un texte de dénonciation et donc presque d'action, parce que dénoncer, c'est déjà agir pour Prévert.
Bon, exactement. Alors moi, c'est toujours un texte qui me laisse sans voix, hein, que je trouve d'une force incroyable, d'un niveau de détail et de considération aussi assez surprenante, qui montre bien que Prévert est quelqu'un d'extrêmement observateur et toujours très à l'écoute. Et effectivement, on n'a pas besoin d'être dans une forme pamphlétaire ou dans un tract. Hein. Un poème lui permet de faire passer évidemment toute son indignation, toute son insatisfaction et de gueuler en quelque sorte. Hein. C'est un terme, un verbe qu'il utilise souvent, hein, dans ses poèmes. Je pense évidemment à La crosse en l'air. Hein. où le veilleur de nuit va gueuler pour ses camarades du monde entier. Il va gueuler pour ses camarades de toutes les couleurs et de tous les pays. Et Prévert, c'est ce qu'il fait. Il gueule pour ses camarades de toutes les couleurs et de tous les pays.
Et de toutes les couleurs, de tous les pays, et qui sont tous ses amis aussi, parce que ça nous permet de glisser un petit peu vers un autre thème, qui est celui de l'amitié. Et ça, c'est très important pour Prévert. Alors, il disait « Moi, je m'entends bien avec moi-même, je suis un de mes meilleurs amis », mais il avait surtout de vrais copains, et il en avait beaucoup.
Oh, il en avait énormément. Il y avait véritablement une bande à Prévert, parce que Prévert, incontestablement, je sais pas, il y a une sorte d'art de l'amitié chez lui. C'est quelque chose d'absolument fondamental. L'amitié, elle naît d'ailleurs assez bizarrement, parce qu'en fait, elle se noue en un regard, tout se joue au premier contact. C'est Jacqueline Duhem, son amie Jacqueline Duhem, qui témoigne bien de cet aspect-là. En fait, quand Prévert voit quelqu'un pour la première fois, il sait d'emblée.
C'est le coup de foudre.
Si ça va coller, voilà, si ça va être un coup de foudre. Et tout se joue au premier contact. Donc, autant ça peut être un coup de foudre, ça a été le cas, par exemple, avec Paul Grimaud, ils se sont rencontrés chez Lip.
Le réalisateur du Roi et l'Oiseau.
Bien sûr, il y a eu un tel coup de foudre qu'ils ont passé en fait la nuit au café à discuter, et puis ils ne se sont plus jamais quittés jusqu'à jusqu'à la mort de Jacques Prévert. Et puis à l'inverse, si Prévert ne peut pas en quelque sorte vous encadrer, vous le comprenez très rapidement, il peut être extrêmement désagréable et il va tourner les talons. Donc
Aragon par exemple, il a été là on revient une minute à la politique, il a soutenu Aragon en se déclarant solidaire avec lui au moment du poème Front Rouge, avait fait que Aragon avait été inculpé. Mais en réalité, ce ne sont pas des amis, ces deux-là. Qu'est-ce qui les sépare ?
Je ne sais pas si on peut dire qu'ils ne sont pas des amis. Déjà, je ne sais pas si vous savez, mais ils se sont rencontrés très jeunes dans un bac à sable. Quand ils étaient enfants, et là ça avait plutôt collé. Après évidemment, c'est pas le surréaliste dont Prévert est le plus proche. Je pense que justement l'engagement politique et le fait que Aragon ait adhéré au Parti communiste ait plus créé des divergences qui font qu'il n'y a pas une proximité. On ne peut pas véritablement parler d'amitié, mais par contre il y a quand même un profond respect. Et justement au-delà de ça, en 1932, quand l'affaire Aragon éclate, Prévert n'hésite pas une seconde évidemment pour signer le tract et pour protester contre l'inculpation d'Aragon pour son poème Front Rouge. Donc voilà, ce ne sont pas deux poètes qui vont concrètement aller boire un verre ensemble dans le café du coin, comme Prévert le fait fréquemment avec ses grands amis, mais il y a quand même un respect et une amitié un peu distante, mais un respect profond entre les deux.
Comme il le fait, par exemple, avec Marcel Duhamel, qu'on écoute à présent parler justement de son amitié avec Prévert.
Eh bien, nous avons fait connaissance parce que il a vu que je recevais, curieusement d'ailleurs, on m'envoyait les œuvres libres à l'époque. C'était tout de même quelque chose, n'est-ce pas ? C'était la littérature. Et c'était pas fréquent dans cette caserne. Gros, à Istanbul, il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels. Non pas que nous étions des intellectuels, mais il y avait peu de gens qui lisaient, qui s'intéressaient à la lecture. Et alors, j'ai prêté mes bouquins et puis nous sommes arrangés pour être voisins de lit. Et voilà, ça a commencé comme ça. Avec un ou deux copains, on a formé un petit groupe, une petite bande. Ce qui m'a attiré tout de suite, c'est le non-conformisme chez lui. Alors, en retour, je me suis dit, tiens, donc je suis moi aussi un non-conformiste, puisque ça m'a attiré.
Oui, vous êtes reconnu.
Je me suis reconnu en lui, un peu.
Et c'est ce qui est important dans cette partie de la vie, parce que, finalement, cette amitié avec Jacques Prévert, bien sûr, dès que vous êtes rentré à Paris, a continué. Très fortement.
Il était rentré un peu avant moi, parce qu'il était arrivé 2 mois plus tôt au régiment. Je l'ai retrouvé à la gare, il m'attendait à la gare. J'ai vu, c'est bien simple, un mannequin, vraiment, de tailleur, ça menait vers moi, impeccable. Vous savez, il a toujours été très soucieux d'élégance, curieusement. Et je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Il avait un veston cintré à l'époque, pantalon à pattes d'éléphant, vous vous rendez compte. Et puis un faux col à point, très long point. Alors je me suis dit, mais qui c'est ce gars-là qui vient à ma rencontre? Puis c'était Jacques Prévert, on s'embrassait. Alors notre amitié s'est renouée tout de suite. Et il m'a fait connaître très vite Yves Tanguy, que lui avait connu à Lunéville avant de partir pour l'Orient, dans des conditions très curieuses d'ailleurs, parce que Quand il est arrivé à la caserne, à Lunéville, tout le monde parlait d'un dingue qui occupait une chambrée et personne ne voulait coucher dans sa chambrée. Ça a intéressé Jacques tout de suite, naturellement, qui a dit « Moi, je prends le lit d'à côté, on va bien voir ce qui se passe. » Il est monté.
Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime. Il dit non au professeur.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et on entendait l'éditeur et traducteur Marcel Duhamel raconter donc la rencontre Prévert-Duhamel. Est-ce que justement cette manière de se faire des amis autour d'une certaine bizarrerie, ce qu'il croit être une certaine bizarrerie chez les gens, ça n'est pas justement le signe que il se nourrit des autres pour sa propre création? Est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là chez lui, Carole Orway?
Si, très certainement. Je pense qu'effectivement, il se nourrit des autres pour sa propre création. Mais au-delà de ça, il a besoin de ses interactions pour travailler, en fait. Il a toujours expliqué que l'activité qu'il préférait, c'était l'activité cinématographique.
Parce qu'il y a un groupe.
Et ben oui, voilà, parce que c'est une activité collective. Et en fait, quand il crée pour le cinéma, il est toujours entouré. Quand il écrit ses scénarios, il est entouré souvent d'autres scénaristes, alors qui ont avoué s'être parfois contentés de taper ce qu'il leur dictait. Mais en tout cas, voilà, ça permet de créer une discussion, une envie d'y aller, une envie de se lever, une envie d'échanger, et donc effectivement de faire naître des idées. C'est quelqu'un qui a profondément besoin des autres. C'est quelqu'un qui, à mon sens, ne peut pas rester tout seul et a besoin véritablement de cette amitié et d'une amitié extrêmement variée, hein. C'est-à-dire que on va trouver des gens très jeunes, des gens beaucoup moins jeunes, des artistes, des gens qui ne sont pas des artistes, qui sont célèbres, qui ne sont pas célèbres, qui sont de toutes les nationalités et puis surtout qui sont de toutes les classes sociales. Mmh. On va trouver à sa table et parmi ses amis évidemment aussi bien sa concierge et son facteur que Picasso ou Miro ou Gabin, vous voyez. Enfin, c'est cet éclectisme-là qui le nourrit et je pense qu'il a... Il a profondément peut-être peur d'une sorte de consanguinité aussi sociale ou intellectuelle et il a besoin de cette ouverture.
Il aime voir ses amis en groupe ou est-ce qu'il peut aussi les fréquenter seul à seul ?
Les deux. Il y a souvent cette bande parce qu'en fait les amis des amis sont des amis, donc il y a véritablement cette bande à Prévert, mais il y a aussi des moments à deux ou à trois beaucoup plus intimes. C'est quelque chose qu'on note très bien sur ces pages d'agenda. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de les voir. En fait, Prévert se crée des éphémérides enluminées, des grandes pages pour chaque jour de la semaine, des pages sur lesquelles il dessinait des grandes fleurs et sur lesquelles il mentionnait tous ses rendez-vous. Et en fait, quand on les analyse, ça nous permet de cartographier toute cette galaxie amicale.
Alors, qui voyait-il le plus ?
Ah, alors, c'est une pratique qu'il n'a qu'à la fin des années 50, hein, donc il faut évidemment nuancer, mais à ce moment-là, on constate qu'il voit souvent un chat jaune.
Ah oui.
Et le chat jaune, en fait, c'est Paul Grimaud, le réalisateur du Roi et l'Oiseau dont nous parlions tout à l'heure. On constate aussi qu'il voit souvent un petit soleil. Et le petit soleil, c'est en fait Henri Crolla, le guitariste. Donc il y a ces dessins qui lui permettent de signifier les amis qu'il va rencontrer, puis aussi les rendez-vous, parce qu'à côté, on peut avoir un verre de vin, c'est-à-dire que ce jour-là, avec le chat jaune, il va boire un verre de rouge, par exemple, ou alors des petites assiettes, des petits couverts pour des repas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça nous permet de cartographier l'ensemble, de voir qui, effectivement, il peut voir seul, qui il va voir davantage en groupe, pour le travail ou non. Et ça nous renseigne aussi beaucoup sur ces fréquentations. Mais il y a quand même cette idée de bande, hein, bien sûr, qui existe depuis la bande surréaliste, la bande du groupe Octobre, la bande du cinéma. Enfin voilà, il y a cette idée de bande quand même.
Et puis il y en a un qui a peut-être une place un peu particulière, c'est son frère Pierre.
Tout à fait.
Un beau jour, on dit toujours un beau jour, mais celui-là n'était pas plus beau que les autres. Au contraire, ma mère parut tout à coup plus malade qu'on ne me l'avait dit. Et mon père beaucoup plus nerveux que d'habitude. Il se disputait avec grand-mère Sophie qui nous racontait des histoires de choux, de cigognes, d'enfants voués au bleu. et je ne sais plus quoi encore. Une grosse bonne femme traversait tout le temps l'appartement avec des seaux remplis de coton taché de sang. C'était comme à l'hôpital le jour des amygdales. Et mon frère arriva. Ma mère, plus souriante encore que d'habitude, tenait mon frère dans ses bras et le regardait sans rien dire. Elle joue à la poupée, disait papa. Et Pierre, c'était le nom de mon petit frère. Je trouvais que pour un nouveau-né, il avait l'air plutôt jeune lui aussi. Et sans doute pour faire plaisir à ma mère, je déclarais que je l'aimerais beaucoup. Plus tard, ce que j'avais dit devint vrai. Mais je mis beaucoup de temps avant de m'en apercevoir.
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles.
Yves Montand, un ami de cœur, pour faire suite à cette archive sur son frère de sang et non pas son frère de cœur, Pierre. Qu'est-ce que on peut dire à ce sujet sur cette fusion fraternelle? Peut-être rappeler aussi qu'il y avait un autre frère, Jean, qui est mort lui en 1915.
Mmh. Oui, qui est mort effectivement en 1915 et dont Jacques ne s'est jamais senti très proche. Hein. Alors il faut dire que c'était un élève studieux, très sérieux et c'est quelque chose qui dépassait complètement le petit cancre Jacques, hein, qui n'était pas mauvais élève hein, d'ailleurs, mais qui n'aimait pas du tout l'école. Pierre Prévert, oui, c'est un frère de sang, mais c'est aussi un frère de cœur. C'est ça qui est très singulier, c'est-à-dire que ce sont des frères, mais ce sont aussi les meilleurs amis. Alors comme il l'a expliqué, ce n'a pas été forcément naturel. En fait, ils se sont vraiment rapprochés, sont devenus inséparables quand Jacques est revenu du service militaire, en fait. Hein. Sinon, c'était peut-être un peu moins vrai avant. Et ce sont deux êtres extrêmement proches qui se comprennent sans se parler et qui ont créé ensemble, hein, puisque Pierre Prévert en fait est devenu cinéaste et il a réalisé notamment pour le cinéma trois longs métrages avec son frère Pierre et je trouve que justement ces films qu'on peut citer, hein, L'affaire est dans le sac, Adieu Léonard et Voyage Surprise sont des films qui rendent parfaitement compte de leur proximité, de leur amitié et qui sont pleinement représentatifs de cette énergie, de cette verve, de ce côté extrêmement subversif en fait des deux frères. Et c'est des films qui sont absolument à mourir de rire tout en disant des choses évidemment très importantes. Donc il y a cette fusion, cette symbiose, cette amitié entre les deux frères. Oui,
parce que Reggiani les appelait les Jacques-Pierre, Jacques-Pierre Prévert.
Oui, sans pouvoir les dissocier, en fait, tellement ils allaient ensemble.
Ouais. On pourrait dire un mot de Robert Desnos. Vous étiez venu, Carole Auroué, nous parler justement de Desnos dans une émission qu'on avait faite sur Man Ray et de son poème L'étoile de mer que Man Ray avait donc mis en image. Il a beaucoup souffert, Prévert, de la déportation de Desnos au point de se reprocher au fond de n'avoir pas fait suffisamment pour le sauver.
Alors, il a beaucoup souffert de la déportation et de la mort de Desnos, c'est évidemment incontestable. Se reprocher, je ne sais pas très bien, en tout cas, il n'y a rien de factuel. Maintenant, il y a, je pense, de toute façon aussi, en partie, pour les gens de cette génération, une sorte de culpabilité ou en tout cas, une sorte d'impuissance. Prévert, on l'a dit, ne s'est jamais encarté, entre guillemets, n'a jamais non plus participé à un réseau de résistance comme Desnos a pu le faire de manière très organisée, mais il a commis lui aussi ses actes de résistance à bien des égards et je pense qu'il n'a pas grand chose à se reporter, mais à se reprocher, mais c'est cette idée de vivre avec cette horreur, avec ce manque, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué et il a d'ailleurs écrit un très beau poème en hommage à Robert Desnos.
Enfant de la haute vie.
Je me souviens de l'avoir vu fasciné.
Philippe Soupeau.
Par ce qu'on appelait autrefois ces chanteurs des rues, vous savez, qui se mettaient à un carrefour et on la vendait sous la chansonnette qu'on vendait, et puis il y avait un accordéon, puis il y avait un chanteur ou une chanteuse qui chantait plus ou moins juste, mais il y avait une foule autour d'eux et Prévert était fasciné. L'orgue de Barbarie, aussi bien que l'accordéon, c'est une des sources de la poésie de Prévert. Car il ne faut pas nous faire d'illusions. Prévert est un poète populaire.
Moi, je joue de l'orgue de Barbarie. Et je joue du couteau aussi, dit l'homme qui jusqu'ici n'avait absolument rien dit. Et puis, il s'avança le couteau à la main, et il tua tous les musiciens. Et il joua de l'orgue de Barbarie. Et sa musique était si vraie, et si vivante, et si jolie, que la petite fille du maître de la maison sortit de dessous le piano, où elle était couchée, endormie par ennui. Et elle dit, moi je jouais au cerceau, à la balle, au chasseur, je jouais à la marelle, je jouais avec un seau, je jouais avec une pelle, je jouais au papa et à la maman, je jouais à chat perché, je jouais avec mes poupées, je jouais avec une ombrelle, je jouais avec mon petit frère, avec ma petite sœur, je jouais aux gendarmes et aux voleurs, mais c'est fini, 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 je veux jouer à l'assassin, je veux jouer de l'orgue de Barbarie.
Et l'orgue de Barbarie par Reggiani, un autre grand ami, hein, Carole Horouet de Prévert. Les amis, ça va avec la musique, et il y a de la musique partout chez Prévert, dans son cinéma, mais aussi quand il décrit les chanteurs des rues, et même la musique religieuse, la musique classique, qui l'intéresse presque autant que les chansons.
Parce que il n'est pas du tout musicien, mais il est très mélomane, et la musique, en fait, elle est omniprésente. Alors, comme vous l'avez dit dans ses créations, hein, le cinéma, formidable, cette archive sonore de Soupeau, hein, je ne la connaissais pas. Effectivement, si on regarde la totalité des films écrits par Prévert, il y a toujours des chanteurs de rue, des musiciens de rue, effectivement. Donc, la musique est présente dans son cinéma, la musique est présente dans ses collages, dans le théâtre, dans la poésie. La musique religieuse, on va la retrouver, par exemple, dans Le Quai des Brumes. Et comme il n'aime pas la musique religieuse, eh ben, il va l'associer à un personnage négatif, et en l'occurrence à Zabel dans Le Quai des Brumes, qui est interprété par Michel Simon. Donc, il y a toujours à chaque fois cette correspondance.
Il n'aime pas, mais il s'intéresse quand même à tout.
Il s'intéresse à tout. Alors bon, après la musique religieuse, qui peut être assez drôle, moi il y a une anecdote que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait quand il est chez lui, c'est Robert Doisneau qui raconte cette anecdote, quand il est chez lui et qu'il y a beaucoup de monde, et que tout d'un coup il a une subite envie d'être tout seul pour par exemple travailler, en fait il met à fond sur sa sono une messe de Mozart, ou ce que Doisneau appelle un machin religieux, et en fait
ça fait partir tout le monde,
se retrouve voilà neutralisé, abasourdi, et tout le monde comprend qu'il faut s'en aller. Donc il s'en sert aussi comme un échappatoire, mais outre cette plaisanterie, oui la musique c'est important. La musique classique, je pense qu'il a appris à l'aimer au fur et à mesure des années. Il rend hommage à Handel, il rend hommage à Karl Orff dans un certain nombre de poèmes. On sait aussi qu'il écoutait Stravinsky, Vivaldi ou Stockhausen. Il a des goûts assez éclectiques, ce qui est tout à fait normal, hein. Il échange aussi avec Brassens. Enfin voilà, on peut faire des
sons. On les associe un petit peu, justement, oui, comme étant un peu les artistes à bons copains, Brassens et Prévert. Est-ce que ça s'arrête là, à cette impression, ou est-ce qu'on peut aller plus loin dans la comparaison et le rapprochement?
Bon, il y a des similitudes, on est d'accord, sur la sincérité, sur l'engagement, sur oui, voilà, l'amitié, la défense des opprimés, la révolte contre l'injustice. Après, dans l'écriture, il y a une patte qui est évidemment différente, mais bon, on peut dire aussi que ce sont en quelque sorte des frères de cœur, qu'ils ont eu quelques échanges, et que j'ai notamment le souvenir d'un petit mot de Brassens qui écrit à Prévert en lui disant à quel point il a adoré Parole. Donc il y a voilà, quand même des similitudes et une proximité.
Et bien justement, dans quelques semaines, nous parlerons, nous aussi, de Georges Brassens dans la Compagnie des œuvres. Merci beaucoup, Carole Horouet, d'être venue aujourd'hui nous parler de Prévert, des copains, de la politique. On peut renvoyer évidemment sur les nombreux écrits que vous avez consacrés à ce poète, que ce soit Jacques Prévert, Détonation poétique, ça c'est les actes du colloque de Cerisy, publié chez Classique Garnier, mais également Jacques Prévert, Une vie, publié aux Nouvelles Éditions, tout comme Prévert et le cinéma, chez le même éditeur. et du cinéma de Prévert, nous parlerons justement demain. Ce sera avec Noël Herpe qui insistera sur les scénarios les moins connus qui ne sont pas pour lui les moins intéressants de Prévert. La compagnie des œuvres, c'est Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin et Clément Daté. Dans un instant, les sciences.